Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes avec Loya. Bonjour Loya.
Bonjour.
Je suis vraiment très contente de te rencontrer parce que j'ai trouvé ton projet, ton parcours vraiment intéressant et vraiment dans la ligne de ce que j'essaie de prôner sur So Sweet Planet, c'est-à-dire vraiment la curiosité, l'éveil, l'ouverture vers d'autres sons de cloche, on pourrait dire même, pour avoir d'autres angles de vue, d'autres angles d'écoute, voilà, de s'enrichir en fait, hein, tout ouais. Simplement. Et donc, écoute, la première question, c'est comment vas-tu ? Parce que là, on est tous dans une situation un petit peu particulière. Donc, je vais quand même, avant de te laisser répondre, préciser que nous sommes aujourd'hui le mardi 2 juin. Voilà, donc nous sommes déconfinés en France de cet épisode de coronavirus. Je resitue le contexte parce que les podcasts sont réécoutés quelquefois plusieurs années après. Donc, nous sommes en 2020, nous sommes le mardi 2 juin. Aujourd'hui, les terrasses rouvrent un petit peu partout en France. Toi, je crois que c'était un peu particulier. Tu es arrivé juste pour te confiner, en fait.
Oui, moi j'étais à La Réunion au mois de février et mars, jusqu'à mi-mars, et je suis arrivé 2 jours avant le confinement. Et du coup, ça m'a fait du bien parce que comme j'avais beaucoup travaillé, c'était très intense quand j'étais à La Réunion, c'est une période où je me suis reposé. Alors que ça devait être une période de forte activité, ça m'a permis d'avoir un matelas de repos.
Oui, de faire un sas de décompression avant de reprendre.
Exactement, exactement. Oui. En ce moment, là, je devais être à Madagascar, là, tout de suite aujourd'hui, normalement. Ah, oui. si tout est normal. Ce qui fait que je suis là, comment ça va bien. Je me suis reposé, j'ai pu reprendre des bouquins que j'avais sur le côté, je fais du sport, je cuisine, je fais un peu de musique, mais donc ça va super bien, quoi.
Bon, eh bien écoute, si tu veux bien, on va discuter aujourd'hui de ce nouvel album qui sort le 4 juin, donc dans 2 jours, hein, par rapport nous au moment où on enregistre, qui s'appelle Sagaï et qui sort dans le cadre de ton projet Black Az. Alors, avant d'en parler plus longuement, j'aimerais bien que tu nous racontes rapidement, si tu veux bien, ton parcours depuis ta naissance, parce que je crois que ce projet Black Az s'inscrit dans ce parcours, dans ce cheminement géographique et musical.
Oui, tout à fait. Alors moi, je suis français, je suis né à l'île de la Réunion et j'ai vécu là-bas 20 ans. Et puis, je suis venu en métropole pour faire mes études supérieures. J'ai débarqué à Bordeaux où j'ai appris l'autonomie, à vivre tout seul, à faire des études. Et c'est là que j'ai découvert la France métropolitaine et puis l'Europe. C'était chouette. J'ai fait mes études supérieures, j'ai eu une carrière dans l'informatique et puis est arrivé un moment en 2015 où...
Tu as fait le conservatoire de Rouen, non ?
Oui, aussi, oui.
Oui.
J'ai fait le conservatoire.
Pour la partie musique.
Pour la partie musique, oui.
Chant lyrique.
Oui, tout à fait, oui. J'ai fait le chant lyrique au conservatoire.
Pourquoi lyrique ?
En fait,
attiré dans le...
comme moi, je suis un autodidacte au niveau des instruments. Les instruments, j'avais commencé par la guitare. J'ai appris la guitare avec un livre en allemand, parce que j'avais fait un voyage en Allemagne, j'ai acheté un bouquin là-bas. Et après, j'ai appris plein d'autres instruments, la batterie, le clavier, tout ça en autodidacte. Et j'avais la frustration de ne pas savoir lire de partitions, comme beaucoup de musiciens autodidactes qui se débrouillent comme on peut. Et puis je me suis dit, je vais m'inscrire au conservatoire pour voir un peu c'est quoi ce monde où on lit la musique ou tout ça. Et il s'avérerait que je pratiquais le chant à ce moment-là où j'avais un groupe où je chantais. Et puis c'était l'occasion pour travailler aussi le chant en même temps. Puis bon, j'ai été faire une audition au conservatoire et puis ils m'ont dit oui, pas de souci, on te prend. Et puis voilà, j'ai travaillé le chant classique pendant 3 ans. Donc c'était chouette, hein, j'ai découvert un monde tout à fait différent de ce que je connaissais au niveau musical. Oui. Ça m'a appris plein de choses et ça m'a surtout décomplexé par rapport au fait de ne pas savoir. Enfin, maintenant, je sais lire la musique, mais que quand on sait la musique, c'est pas seulement des notes, quoi. Voilà. C'est là que je me suis rendu compte que finalement, je me débrouillais pas mal par rapport aux autres. C'était pas une question de. On se met des barrières nous-mêmes. C'est pas les autres qui mettent des barrières. Donc oui, voilà. Mais... Puis ça me permet aussi de comprendre parce que j'aimerais dans un avenir travailler. Peut-être avec des musiciens classiques ou d'autres musiciens. Et je sais maintenant comment ils travaillent. Ça me permet de pouvoir discuter avec eux parce qu'ils ont un langage. Hein, comme tout métier, chaque métier a leur langage. Et maintenant, je leur parle, je comprends, donc je peux discuter avec eux. Donc, c'est chouette.
Oui, je crois que la musique, elle est arrivée un peu plus tôt dans ta vie parce que ta première guitare, il y a une anecdote par rapport à ta première guitare, non ?
Oui. Ma première guitare, je l'ai eue par hasard parce que je m'y attendais pas du tout. Moi, en fait, comme je viens d'une famille pauvre à La Réunion, j'allais travailler dans un champ de piment pour l'été pour participer dans la famille. Et puis, il s'avère quand j'ai ramené l'argent à mon père, il m'a dit non, regarde-le. Bon, je savais pas quoi en faire de cet argent.
Oui, oui.
Ça faisait beaucoup d'argent pour moi. C'était 50 francs à l'époque, mais bon, 50 francs, c'est... Et donc, du coup, il y a un copain qui, dans la classe, qui s'était acheté une guitare. Et puis, je dis, tiens, bah, je vais m'acheter une guitare aussi. Et puis, ça a commencé comme ça. Voilà.
Et voilà. Ouais. Et donc, tu as appris la guitare déjà en autodidacte, j'imagine, aussi ?
Oui, appris, c'est un grand mot, hein, parce que je ne savais pas accorder, je ne savais pas plein de choses. Mais
en fait, tu t'es familiarisé avec.
Et voilà. C'était le début. Puis, j'étais très passionné. Et il s'avère que ça a pris ça a grignoté de plus en plus de place dans ma vie. Et puis maintenant, ça, c'est 24 heures sur 24, quoi. Voilà.
Et, oui. Et alors, après, comment on passe, en fait, entre le conservatoire et ton premier album, il y a quoi ? La carrière d'informaticien ?
Oui, tout à fait. La carrière d'informaticien où c'était ma profession d'avant, quoi, qui fait que ben, moi, la musique, c'était en tant qu'amateur, après le week-end ou le soir avec les copains. Et puis, j'ai voulu aller plus loin, donc j'ai démissionné. Moi, j'étais fonctionnaire, donc j'ai pas moyen de faire autrement. J'ai démissionné pour faire musicien. Puis là, je suis musicien depuis 2015, ça fait 5 ans déjà maintenant.
Oui, parce que j'ai vu qu'il y a au moins 3 albums, je crois, avant celui-ci-là.
Oui, donc en 2015, il y a eu Éruption, le premier album de Loya. Ensuite, il y a eu 3 EP sur le label Mawimbi à Paris. Et est sorti le deuxième album Corail chez Mawimbi en 2018. Et cette fin de semaine, il y a Corail qui sort. Voilà.
Sagaï,
pardon.
Alors, Black Ass, donc, c'est ce projet dont on va surtout parler. C'est un projet sur lequel tu travailles depuis 4 ans, je crois.
Tout à fait. Au moins.
Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer toi-même de quoi il s'agit ? Parce que c'est un concept et c'est une aventure, en fait. Hein.
Oui, voilà. Donc, du coup, comme Loya, c'est un projet solo, musique électronique. J'ai beaucoup voyagé en Europe et puis dans l'océan Indien, tout ça pour faire des concerts, des festivals. Et il s'avère que je me suis senti un peu seul et puis j'ai voulu du coup faire un projet à plusieurs sous forme de groupe. Et j'ai un peu réfléchi à ce que je voulais. Et je voulais un projet qui ait du sens pour moi, donc j'ai commencé à réfléchir. Et là, j'ai commencé à faire des rencontres avec des musiciens traditionnels, avec Ménoir à l'île Maurice. Et c'est là que je me suis dit qu'il y a possibilité peut-être de faire quelque chose comme ça, de faire connaître ces talents qui sont lointains en collaborant avec eux et puis d'aller comme ça, de voyager d'île en île, de pays en pays et puis de faire des albums pendant, je sais pas, une dizaine d'années, une quinzaine d'années.
Ah oui, je savais pas que c'était un projet d'une telle envergure.
Oui, parce que... Ça demande de l'énergie pour faire un album, il faut 2-3 ans.
Et surtout que les îles dont tu parles, c'est des îles, si j'ai bien compris, hein, qui seront toutes dans l'océan Indien.
Oui,
c'est très vaste.
Et l'océan Indien, c'est vaste, hein, ça va depuis l'Afrique du Sud jusqu'à la côte ouest de l'Australie. Donc c'est quelque chose d'assez immense.
Jusqu'à l'Inde ?
Oui, jusqu'à l'Inde aussi.
Donc voilà. C'est vraiment riche hein, culturellement, oui. Comme voyage.
Voilà, c'est riche comme voyage. Et puis, moi, ça me permet aussi de travailler sur mon identité, parce que comme je viens d'une famille tamoul, sud de l'Inde, ma arrière-grand-mère venait de Pondichéry, et mon grand-père était un prêtre tamoul, donc j'ai baigné là-dedans. Et j'ai voulu remonter un peu comme la truite remonte le courant.
Oui, le courant.
Voilà.
Pour remonter au lieu de naissance.
Voilà, faire un peu la même chose. Et puis, j'aime beaucoup parce que là, je travaille, je sélectionne plutôt des personnes, des musiciens qui font de la musique traditionnelle et puis qui sont experts et maîtres en leur art, qui me permet de comprendre aussi ben, comment ils ont pris ça, d'où ça vient, et puis d'avoir aussi leur expérience, leur explication. Et c'est important pour moi aussi de partager ça avec le public.
Oui, parce que c'est pas quelque chose qui arrive dans notre univers comme ça spontanément ici. C'est lointain et c'est peu, c'est pas dans les choses les plus commerciales, les plus médiatisées qu'on nous sert toute la journée.
Oui, bien sûr. Donc... Et dans ma démarche, moi j'ai compris que mon travail, c'était pas faire du commercial, c'est pas du tout. C'est pas ça, je sais pas cuisiner ça. Donc, moi, je vais plutôt faire dans l'atypique et puis aller plus en profondeur. C'est pour ça que je parle d'un travail sur la longueur, parce que je prends le temps de faire les choses, je rencontre les gens, je voyage plusieurs fois, et puis histoire de mettre aussi une relation de confiance aussi pour bien collaborer. Et ça prend du temps, donc c'est pas du tout dans un calendrier resserré où il faut produire des choses rapidement pour être rentable. On n'est pas sur ce genre de travail. Donc, c'est un autre calendrier. Et moi, ça me tient à cœur. J'ai envie de bien faire les choses. Et je pense, les personnes, quand je leur demande de collaborer avec moi, je leur précise aussi que c'est un travail comme ça. Et ils sont contents de savoir que je ne viens pas juste, je les enregistre et puis je m'en vais. Et puis, ils ne vont plus me revoir. Ce n'est pas ça. Je vais là-bas, je travaille avec eux, je vais revenir. S'ils ont besoin de moi, ils m'appellent. Enfin, il y a tout un travail de confiance comme ça. Où l'idée, c'est aussi comme un... C'est pas facile la vie de musicien pour eux dans leur pays. C'est moi, avec mes capacités que je peux, c'est mettre un peu en leur lumière, leur travail aussi pour les faire connaître un petit peu. Et oui. C'est aussi ça le travail de ce projet, quoi.
Et d'ailleurs, tu essaies même j'ai lu de les payer en avance pour ce qui est compliqué, là, j'imagine, avec les événements
actuels.
C'est... Pour soutenir aussi cette création, quoi.
Bien sûr, parce que moi, j'ai la chance ici d'être intermittent, d'avoir un régime spécial et puis d'avoir des aides, ce qui n'est pas le cas à l'île Maurice en ce moment. Là, il y a eu du confinement, donc Ménoir, il n'y a pas de concert, tout ça. Du coup, moi...
Ménoir, hein. Je précise, parce que moi, je sais de qui tu parles, mais je vais te demander de nous le présenter juste après.
Le présenter juste après. Oui. Et aussi d'autres musiciens qui sont à Madagascar, où j'ai été l'année dernière avec qui je travaille. Pareil, je les aide parce que c'est une situation, ce virus qui est très difficile pour les artistes là-bas, parce qu'il n'y a pas, comme ici, un système qui peut pour les protéger. Là-bas, quand on apprend à faire, on est musicien, on n'est que musicien. On ne fait pas autre chose comme métier, donc c'est difficile. Et à Madagascar, le musicien avec qui je travaille, ben, il a une famille de 30 personnes et c'est lui qui gère toute la famille. C'est un peu comme en Afrique. Donc voilà, c'est aussi ce travail d'aider et puis de collaborer et puis de faire connaître.
Voilà. Oui, de transmettre.
Oui, aussi transmettre, recevoir pour transmettre aussi, parce que à la base, l'idée, moi, c'est aussi de... C'est un peu une idée égoïste, parce que j'ai envie de comprendre, hein, mais qui, au final, n'est pas aussi égoïste que ça, parce que sur mon idée de comprendre, je finis par partager beaucoup plus que j'en apprends.
Oui, c'est ça, c'est pas égoïste, puisque ça rejaillit sur nous, et ça nous permet aussi de comprendre, et d'apprendre, et de découvrir.
Oui, tout
donc,
à fait.
Tu le partages, donc
oui.
C'est pas égoïste. Je te rassure. Bon, donc pour ce premier volet, ce premier album de cette longue série, on l'espère, est-ce que tu peux nous présenter donc Ménoir avec qui tu fais équipe ? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça.
Oui,
qui est musicien. Il sera là sur toute la durée ou c'est pour cet album-là ?
C'est pour cet album-là. Donc Ménoir, c'est un musicien de l'île Maurice qui a une quarantaine d'années de carrière où il est à la base percussionniste. Il joue d'un instrument qui s'appelle la ravane, qui est une percussion circulaire. qui se joue avec les mains, où on pose sur les genoux. Et il est aussi chanteur de ce qu'on appelle le séga typique, c'est la musique traditionnelle de l'île Maurice. Il est un chanteur assez particulier parce que fabrique lui-même ses propres instruments par des objets qui se trouvent autour de lui dans le quotidien. Il a fabriqué des petits instruments mélodiques à base de branches de canne à sucre qu'il utilise sur ses albums ou d'autres shakers, des choses comme ça. Et j'aime bien sa façon de voir les choses quand j'ai discuté avec lui. Il a une volonté aussi assez philosophique de voir la musique où dans ses textes, il parle vraiment de la réalité, des difficultés, et puis aussi de la beauté de l'île Maurice. Et j'aime bien ce côté-là où, comme moi, il ne recherche pas à faire de la musique facile pour la radio, parce que là-bas, le système fait que presque tous les chanteurs sont comme ça. Donc lui, il a pris le sens inverse, où il n'est pas du tout commercial, mais ce qu'il fait, c'est de qualité. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu travailler avec lui, parce qu'il a des choses à raconter, et pour moi c'est un maître. Dès que je discute avec lui, je bois ses paroles, parce que c'est hyper important pour moi. Et voilà, non, c'est très chouette cette collaboration qui a commencé en 2017. Il était venu à Paris pour une série de concerts, et puis moi je l'ai rencontré comme ça, on est allé en studio, et on a collaboré sur un titre qui est sorti sur l'album Corail. On a fait connaissance, après je suis allé le voir à Maurice plusieurs fois, puis j'ai fini par lui dire « on va faire quelque chose ensemble », il m'a dit « oui, pas de problème », et puis voilà, ça s'est fait comme ça, je suis allé à l'île Maurice, et puis en ramenant du matériel là-bas pour l'enregistrer, et puis l'album a été enregistré dans son quartier, à Pointe-aux-Sables, à l'île Maurice.
Après nous avoir présenté Ménoir, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que signifie Blacaz ? Parce que j'ai lu que ça voulait dire goudronnage en créole réunionnais.
Oui, tout à fait.
Et alors pourquoi ce titre de goudronnage ?
Parce que Blacaz, ça veut dire goudronnage en créole réunionnais. Moi, je cherche un mot qui soit assez évocateur. J'aime bien qu'il y ait du sens. Dans les mots. Et ça m'a fait repenser à un séjour où je suis passé à Madagascar. On a fait la traversée de Madagascar là, sur la RN7 en partant de Tananarive jusqu'à Tuléa. Et c'est un trajet assez particulier parce qu'on y va en taxi-brousse. Et souvent, les routes, elles ne sont pas bitumées, quoi. Et il y a ce côté-là d'aller sur les routes où il y a de la poussière. Et puis, j'ai voulu, avec ce mot goudronnage, amener l'inverse, amener goudronner ces routes pour amener ces musiciens jusqu'en Europe et partout dans le monde. C'est un peu ça l'histoire du mot.
D'accord. C'est un tapis que tu déroules donc aussi.
Oui, tout à fait.
Je t'ai coupé tout à l'heure quand tu parlais que c'était parti pour au moins 10 ans. Est-ce que tu as déjà une idée précise de combien d'albums sont prévus ou ça va se dérouler au fur et à mesure de...
Ça va se dérouler au fur et à mesure
du projet.
Du projet, voilà, là, je vais le faire géographiquement. Je pense que la prochaine étape, c'est Madagascar. J'ai déjà commencé à travailler. L'album a déjà été enregistré. Je suis en train de travailler dessus. Donc, ça sortira l'année prochaine. Et puis, la prochaine étape, ça va être l'Afrique de l'Est, un pays d'Afrique de l'Est. Là, je suis en train de... Bon, c'est un peu ralenti avec la crise du virus. Donc, du coup, je ne vais pas pouvoir voyager comme je peux. Là dans les pays étrangers, c'est compliqué. Mais... peut-être ça va retarder d'une ou deux années la série d'albums, mais je vais continuer en Afrique, faire un petit peu la côte de l'Est, et puis partir soit au Sri Lanka ou en Inde. En Inde aussi, c'est un pays où j'ai envie de faire un gros travail, donc là ça va être un gros morceau, et il va falloir beaucoup de temps pour travailler dessus.
Oui, et tu parlais de ton arrière-grand-père et ton arrière-grand-mère tout à l'heure, et parce qu'effectivement, en préparant l'interview, j'ai vu que l'Inde revenait quand même, j'ai vu que tu avais joué une de tes compositions au musée Guimet, au milieu de statues justement indiennes. Donc tu nous as parlé de cet arrière-grand-père, arrière-grand-mère, et du coup, quelle est la place de l'Inde dans ce projet et dans ta vie ? Parce qu'on sent que c'est là, il y a un clip aussi de... Malbar
Dance, oui. L'Inde est omniprésente déjà parce que l'océan Indien, il y a l'Inde dedans, hein. C'est un énorme, pour moi c'est un continent à lui tout seul. Déjà d'une, ça c'est sur le côté géographique, et après il y a le côté spirituel. J'aime beaucoup l'Inde par la façon dont on voit la vie. La vie, son côté connecté, où on n'est pas auto-centré, mais on fait partie d'un tout, avec le dharma, et on est dans un univers... Et ça, c'est chouette pour moi. C'est exactement ma façon de penser où on est tous connectés. Et il y a la Terre, mais on est aussi dans un univers avec des galaxies, avec plein de choses comme ça. Et tout ça, ça joue de rôle. Il faut toujours se rendre compte que on n'est que des êtres humains, quoi. Voilà. Et qu'on est sur une toute petite planète et on fait partie d'un grand tout. Et pour moi, tout ça est connecté et je fais souvent attention à ça. Bah, je me suis mis à la méditation depuis longtemps. Et ça me permet aussi de réaliser ce côté indien. Je pense que j'aime beaucoup l'Inde et l'Inde est tout le temps présente dans ma vie par ce côté spirituel qui est ultra présent. Moi, je me lève le matin, je me sens connecté, j'entends les oiseaux qui sentent. Enfin, il y a tout un côté comme ça où je me rends compte tous les jours que cette philosophie, elle me remplit.
Et tu disais, c'est ma façon de penser, mais je pense que c'est, on voit bien, et on le sait depuis assez longtemps scientifiquement, mais on en reprend conscience malheureusement qu'au moment des grandes catastrophes, que ce n'est pas une façon de penser le fait que tout est lié, c'est vraiment une réalité, puisque dans presque toutes les interviews, j'ai l'occasion d'aborder ce thème de l'interdépendance et des écosystèmes, et puisque je fais beaucoup d'interviews aussi de personnes qui sont engagées pour l'environnement et pour le climat, tout le monde dit qu'il est urgent de reprendre conscience de ça, puisque tous les problèmes viennent du fait qu'on a perdu conscience, hein, du fait que tout est connecté et qu'il y a une interdépendance dans tout ça. Et dans la musique indienne, il y a beaucoup de spiritualité aussi dans la musique indienne, quelles que soient après les origines religieuses, ou parce qu'il y a beaucoup de choses aussi en Inde. Hein. Est-ce que ça t'intéressera d'explorer aussi
Oui, j'ai déjà commencé à travailler avec un maître percussionniste et une danseuse de Bharatanatyam sur ce sujet, où on a commencé à décortiquer un peu les Védas, qui sont les quatre tomes ultra importants en Inde. Et on essaie de faire un travail sur cette naissance, comment de cet univers est arrivé après la trilogie, la naissance des dieux, et qu'est-ce qui s'est passé après tout ça. On fait un travail là-dessus, et c'est très intéressant. C'est très, très intéressant parce que dans ces livres, on apprend énormément de choses. Et je trouve que c'est un pays aussi hyper en avance, parce que ils réfléchissent beaucoup, il y a beaucoup de recherches, tout est documenté, que ce soit au niveau scientifique, dans la biologie, les mathématiques, l'astrologie, l'astronomie, pardon, il y a plein de choses comme ça qui sont...
La médecine traditionnelle, l'approche du vivant dans sa globalité, pas séparer le corps de l'esprit,
beaucoup
de choses auxquelles on commence à revenir.
Oui, tout à fait. Et sur l'énergie, la circulation d'énergie, tout ça. Ce qui fait que là, on parle, quand je parle de musique indienne, avec Balakumar, avec lequel je travaille, lui il fait de la musique carnatique et de la musique classique indienne du Sud. Et ça date de 5000 ans, la musique qu'il fait. C'est quelque chose d'incroyable. Et je discute avec lui, mais en plus, c'est une musique ultra compliquée, où je me dis, mais... Non, mais c'est incroyable. Comment ça se fait qu'il y a 5000 ans, on a créé cette musique? Mais 5000 ans, c'est énorme. Il y a 5000 ans, en Europe, on n'était pas dans cet été-là. Donc, il y a un côté comme ça qui me fascine, où je trouve que ce sont des gens qui sont en avance. Ils ont créé beaucoup, beaucoup de choses. Je pense qu'ils sont connectés à la réalité, ce qu'ils font, comment ils dominent pas le monde. C'est pas les maîtres du pétrole, des armes. Ils sont pas super riches. Mais ils ont une autre richesse qui m'intéresse.
Mais quand même, il y a une tendance en ce moment qui est un petit peu moins pacifiste. Et... Ils ont la bombe nucléaire, là, maintenant.
Oui, ils ont la bombe nucléaire. Oui, tout à fait.
Ils ont au pouvoir quelqu'un qui est assez autoritaire en ce moment aussi.
Oui, là, si on parle politique, même sans aller jusqu'à lui, il y a le système des castes, hein, qui est quelque chose pour moi qui est hyper très affligeant, hein, d'avoir séparé comme ça les gens en communauté qui sont intouchables pour certains. Voilà, c'est pas facile. Donc du coup, voilà, il y a ce côté spirituel qui m'intéresse, qui est omniprésent et qui est là. Tout le temps, c'est les gens, mais après, il y a le côté politique. Hein.
Alors, pour ce premier album, combien d'îles ont été visitées, là?
Juste Maurice.
Voilà. Ah oui, parce que j'ai lu Madagascar, Mozambique, La Réunion, mais ça, c'est pour après.
Pour la suite, oui, voilà.
D'accord, ok.
Dans le projet, dans l'écriture, quand je parle de Black Age, je parle de l'avenir aussi, en parlant de l'album Sagaï. Donc, Sagaï, c'est que l'île Maurice avec que Ménois. Donc, je me consacre juste à lui. C'est pour ça que ça prend du temps. Et puis, je veux pas faire plein de choses en même temps. Sinon, ça va amener dans la confusion. C'est les personnes qui écoutent. Et puis, j'ai envie, durant un album, qu'on reste vraiment dans un univers et qu'on passe pas dans différents univers. Et là, on reste que Aline Maurice, que avec Mes Noirs, où je lui ai demandé de faire un travail sur sa musique, parce que c'était moi un peu qui était le chef d'orchestre quand on travaillait. Hein. Donc, je lui ai demandé des fois de parler de sa percussion sur une chanson. Voilà, c'est une percussion avec laquelle on peut presque dire il dort tous les jours. Mais une relation, ça fait plus de 40 ans. Et je lui ai demandé, mais parle-nous de cette percussion. Qu'est-ce que ça représente pour toi, tout ça. Donc, voilà, il y a une chanson là-dessus qui est très émouvante. Il y a une autre chanson où je lui ai dit, cette fois-ci...
C'est Ravan, c'est celle-ci.
Oui, c'est mon Ravan, oui, tout à fait. Il y a une autre chanson où je lui ai demandé de faire la percussion avec la voix, comme le Konakol en Inde, d'avoir aussi ce côté indien, de ne pas jouer de la percussion, mais de la solfier à la bouche. Et puis, il y a une chanson où on a plus parlé politique aussi, avec Fais ce qu'on a pour faire, qui est une chanson qui parle un peu des réalités avec les hôtels de luxe, dans le sud de Madagascar, où c'est assez compliqué, les places sont privées, les Mauriciens peuvent plus aller dessus, c'est quelque chose qui travaille beaucoup là-bas, quoi. Donc, parler un peu aussi de leur réalité. Et puis, il y a d'autres chansons qui sont des musiques traditionnelles, comme avec Fanfan, qui lui a appris à jouer de la musique. Il a fait aussi un peu ce travail de reprendre des vieilles chansons traditionnelles, comme Canal Bello, et de le chanter aussi sur ce disque-là, qui est un travail important de toujours être connecté avec le passé.
Ah oui, c'est ça. Donc, en fait, c'était justement une question que je voulais te poser, c'est qu'il y a, dans la partie qui vient de lui, il y a à la fois des chansons traditionnelles qui préexistaient au projet et des choses qu'il a écrites.
Oui, tout à fait. Après, les chansons traditionnelles, c'est comme dans le jazz, hein, ça n'appartient à personne, les chansons traditionnelles.
C'est la mémoire collective.
C'est la mémoire collective qui est là et je trouve que c'est important qu'elle soit tout le temps aussi mise en avant parce que ces personnes qui ont écrit ces chansons, je trouve qu'elles ne perdent pas de sens parce qu'elles sont tellement profondes qu'elles sont toujours présentes.
Et elle parle de quoi, par exemple, ces chansons-là, justement ?
Elle parle des réalités qui sont, comme souvent, c'est de l'injustice, de la violence faite aux femmes, ce genre de choses qui font
toujours
que...
présente, oui.
Voilà, c'est un peu triste à dire, mais les années passent, mais ces problèmes ne disparaissent pas.
Alors, dans ce que j'ai lu du concept du projet, donc collaborer avec des artistes de l'océan Indien par le biais de résidences, puis de sortir un album suivi d'une tournée.
Tout à fait.
Donc là, tu as été en résidence, tu es allé le voir plusieurs fois, l'album sort donc après-demain, et il y a une tournée.
Il y a une tournée.
J'imagine que c'était difficile à mettre en place ces derniers temps, évidemment, puisqu'on
normalement,
peut rien prévoir,
mais... On devait être en tournée en ce moment.
Ah oui. Bon.
Donc, ça a tout bousculé. En septembre, normalement, on doit se rejoindre à La Réunion. Là, on attend le discours du gouvernement du 22 juin, là, qui va éclaircir un peu la situation pour savoir si on pourra aller à La Réunion pour travailler parce qu'il y a ce phénomène de quatorzaine qui fait que toute personne qui voyage, qui n'est pas dans l'espace Schengen, doit rester 14 jours confiné dans un hôtel ou un gymnase. Donc, c'est un peu compliqué de travailler comme ça si on reste 14 jours.
Ouais,
donc, pas facile. Donc, normalement, au mois de septembre, on a une résidence et suivi de 2-3 concerts à La Réunion. Et en 2021, on a 3 semaines de résidence en Normandie et à Dreux aussi, et suivi de quelques concerts que je suis en train de chercher. Et il y aura aussi d'autres concerts dans l'année, parce que là, avec la situation, c'est un embouteillage pas possible au niveau des concerts, parce que comme tout a été reporté, enfin, tout se bouscule, je pense que la tournée va s'étaler sur 1-2 ans, je pense. Voilà, ça va être un peu ça l'idée. On ne va pas pouvoir tout faire d'un coup comme j'aurais pu aimer le faire, mais là, on va le faire en plusieurs étapes, ce qui va être intéressant aussi, je pense.
Et donc, les rencontres, à part Mes Noirs, pour le projet de façon plus générale, est-ce que tu connaissais déjà toutes ces musiques des îles sur lesquelles tu envisages d'aller enregistrer, d'aller explorer, d'aller rencontrer ? Est-ce que tu connaissais déjà donc, toutes ces musiques et ces musiciens, ou est-ce que tu par les découvrir, en fait. Est-ce que l'idée, c'est de partir les découvrir, de faire connaissance sur place, ou c'est un mix des deux ?
C'est un mix des deux. En fait, moi, avec mon travail avec l'OIA, ça m'a permis, j'ai fait un travail avec le Quai Branly, où il y avait une année sur Madagascar, par exemple, où j'ai eu accès au fond musical du Quai Branly, où ils m'ont demandé de travailler sur la musique de Madagascar. Donc, c'était hyper intéressant d'avoir toutes ces musiques, de les découvrir. C'est comme ça, en fait, qu'est venue cette idée de collectage, de travail. Et puis, quand j'ai écouté les musiciens, j'ai dit, ah non, mais lui, ça m'interroge. Bah, j'ai envie de le rencontrer, en fait. C'est ça. Sa musique me parle tellement et tellement étonnante que Je me dis, il faut absolument que j'aille le rencontrer.
Et pour qu'ils soient encore vivants, tous.
Oui, dans tes coups de foudre. C'est l'idée de départ, mais comme tout est connecté dans mon univers, les choses se font tellement bien que quelques mois après, je finis par rencontrer ce musicien. On apprend à se connaître, on joue ensemble, on enregistre. Et voilà. Et l'idée de départ, c'est ça, c'est d'avoir une interrogation, de savoir d'où ça vient, cette musique qui me parle tant et puis qui vient d'ailleurs, mais que j'avais jamais entendue, mais que je me reconnaissais à l'intérieur. C'est surtout ça. C'est ce que je recherche dans ces sept océans indiens. Je pense qu'on est tous liés. Il y a un espèce de fil qui se déroule où on est tous connectés. C'est ça que j'ai l'impression à chaque fois que je vais rencontrer des musiciens, je vais me reconnaître en eux et eux, ils vont se reconnaître en moi. Il y a aussi ce qui est aussi intéressant, c'est de mettre en musique cette diaspora qu'il y a dans l'océan Indien, de notre commun à l'histoire et puis à notre histoire, parce qu'on a tendance à séparer les choses, à faire des groupes, alors que ça va au-delà des frontières, surtout au niveau de la musique. Donc pour moi, c'était important de faire ce travail de recherche, que je continue. J'écoute beaucoup de musique comme ça, et d'aller chercher les origines. Et puis, c'est comme ça que je vais aller chercher les collaborations. Et quand j'ai un musicien qui m'interroge, là, je voyage, je prends mon sac à dos, j'y vais, puis je le rencontre comme ça. Et je pense que pour moi, c'est la meilleure façon de faire les choses. En tout cas, je le fais comme ça.
Quand tu les rencontres, ces musiciens souvent traditionnels et qui ont toute cette culture très préservée, est-ce qu'ils n'ont pas peur de te confier leur création, leur musique, ce qu'ils font? À une époque, on entend parler de problèmes d'appropriation, de problèmes de commercialisation de tout ça. Est-ce qu'ils n'émettent pas des craintes? Comment tu abordes ça avec eux pour leur...
Oui. Non, il y a pas. On vit pas dans le même monde. Ça, c'est quelque chose de différent pour eux. Ou droit d'auteur, toutes ces choses-là, c'est pas du tout leur quotidien du tout. C'est plutôt à moi qui pense et pour les protéger tout ça. Mais leur quotidien, c'est déjà comment je vais les payer? Je dis mais vous inquiétez pas, vous travaillez avec moi, moi je vous paye, il y a pas de souci, tout ça. Et puis leur inquiétude est souvent quotidienne, parce que la vie des musiciens traditionnels là-bas, c'est la survie. Ils sont pas professionnels comme nous, on fait ça tous les jours. Là, par exemple, le musicien de Madagascar, Emanij, avec qui j'ai travaillé, lui, son métier à la base, il est plutôt médecin de la musique, parce qu'il utilise l'art de la musique pour soigner les gens. Donc, il va dans les villages comme ça, et sous forme de cérémonies, il fait appel à des esprits pour soigner les gens comme un chaman. Je dis ça assez rapidement, mais c'est un peu ça, son travail, mais qui fait que c'est un peu plus compliqué avec les choses actuelles. Et puis, il prend de l'âge aussi, donc ça n'arrange pas les choses. Et voilà, donc ils s'inquiètent pas plus que ça, et puis je fais assez attention, j'essaye de leur mettre en confiance aussi, de leur dire, c'est eux-mêmes qui me disent après, mais tu es comme nous, même si tu arrives avec tes machines, ils me demandent, mais toi tu joues de quel instrument? Je dis ça, et je leur mets une boîte avec des boutons, et ça clignote, ils me disent, ah oui, mais comment ça marche? Et puis je joue avec eux, et puis ils disent, ah mais oui, mais c'est vraiment un instrument, ils sont très curieux de voir ça. Quand j'arrive, ils me demandent quand est-ce qu'on joue. Je dis non. Là, on passe au moins une journée ou à deux jours à discuter. C'est-à-dire qu'on fait pas de musique du tout. Moi, j'ai envie de savoir. Donc, je prends mon magnétophone, j'enregistre tout, je prends mon cahier, je note. Et là, on se questionne. Je leur questionne. Alors, Oui, comment t'as instruit ton instrument, t'as joué avec qui, voilà, tout un. Mais là, joue un morceau pour moi, mais là, ce que tu faisais là, mais c'est quoi? Qu'est-ce que, plein de choses comme ça, d'apprendre le langage, le vocabulaire, les instruments, comment ça joue, plein de choses. Il me faut 1 à 2 jours où je note tout ça pour après, quand on va jouer ensemble, ben, je parle le même langage qu'eux. Donc c'est déjà pendant ces 2 jours, ça les met en confiance.
Oui,
Et
faire
puis.
connaissance, quoi.
Faire connaissance, ils se disent, ah non, mais je m'intéresse vraiment à eux et à leur art. Je passe là juste pour les enregistrer.
Oui.
Aussi les enregistrer, mais pas que. C'est aussi vraiment bien comprendre ce qu'ils font pour pouvoir l'expliquer après aussi. Et puis, dans moi, dans mon processus de création, parce que ça se passe en plusieurs étapes, hein. Il y a l'étape où on se rend compte, je comprends, il y a l'étape où je les enregistre, et après, il y a l'étape où je fais les arrangements, où je suis tout seul en Normandie. Ça me sert à ça de bien comprendre leur musique. C'est moi, avec mes machines, j'ai pas envie de trahir l'esprit et les instruments avec lesquels ils ont joué et de rester connecté à tout ça, quoi.
Et si ça ne leur plaît pas, qu'est-ce que tu fais?
Bon, je sais pas encore,
Ne s'est pas présenté.
ça s'est pas encore présenté, mais peut-être que ça se présentera. Mais
En même temps, tu les as bien préparés, tu leur as présenté ce que tu faisais, tu leur fais écouter sur place, tu joues
bien sûr,
avec eux.
oui,
Donc
bien sûr,
ce n'est pas une surprise.
non, c'est pas une surprise, non, non. Ils écoutent, je leur montre aussi les vidéos, qui je suis, bah, je me présente comme eux ils se présentent, moi aussi je me présente, c'est hyper
Oui.
important dans la relation que sont. Je leur demande de jouer un morceau, moi aussi je joue un morceau, et puis voilà. Et puis après, tous les jours, on mange ensemble. Voilà, on passe vraiment nos journées ensemble, ce qui fait que ça détend l'atmosphère. Mais tout en, bah, bien sûr, mon but, c'est pas de m'immiscer dans leur vie, hein, parce qu'il faut quand même que je garde une relation professionnelle, on va dire, parce que je les respecte. Et donc, du coup, je suis là, je les considère comme des collègues avec qui je travaille à chaque fois. Et je les respecte. Comme je peux respecter un musicien qui est ici à Rouen ou à Paris, pour moi, c'est exactement la même chose. Et je veux travailler, qui travaille dans des bonnes conditions, comme on peut travailler dans des bonnes conditions ici.
Tu as enregistré sur place donc la musique, mais beaucoup de sons aussi. Et on te voit dans une vidéo d'ailleurs te promener avec un petit enregistreur comme celui avec lequel je fais mes podcasts quand j'ai la chance de pouvoir enregistrer en direct. Et donc avec ce petit enregistreur, tu te promènes sur les lieux et tu enregistres, tu fais vraiment de la captation pour restituer un paysage sonore, pour restituer des énergies aussi, tu dis. Et effectivement, si on écoute ton album sur de bonnes enceintes ou un casque, ce que je recommande vraiment, on peut écouter ça sur des petites enceintes d'ordinateur, ce serait dommage. Et à ce moment-là, on plonge vraiment dans ce monde que tu crées, que tu restitues. Tu crées de l'électronique avec de l'organique. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton processus créatif par rapport à ça, à tous ces sons de la nature, de tôles ondulées, de bois, de beaucoup de choses?
Il y a ce côté où, comme moi, je viens des machines où c'est très digital, on va dire.
Oui, froid.
J'aime aussi froid et j'aime aussi raconter des histoires. C'est mon objectif en tant qu'artiste,
Oui.
c'est-à-dire je raconte une histoire, un début, une fin, tout ça. Et rien de tel pour moi que avec mon enregistreur, c'est d'enregistrer des sons, de capter le lever du soleil, de capter le soir, de capter plein de choses comme ça, de capter le silence qui n'est pas vraiment du silence, et de
Ça, c'est
capter.
très poétique, hein.
Et j'aime beaucoup en fait que l'auditeur se retrouve comme moi, puisse se situer géographiquement avec les sons qu'il peut entendre. Moi, quand j'écoute l'album, j'entends. Et je sais à quel endroit où on se trouve, je sais à quel instrument à jouer, je sais là s'il y a des oiseaux, c'était dans tel endroit. Et pour moi, c'est hyper important parce que j'ai envie aussi que le spectateur, enfin le spectateur, l'auditeur se demande,
Oui.
mais ce son, d'où ça vient? Et pareil, d'animer cette curiosité aussi de ces choses, et ça raconte vraiment une histoire pour moi et je pense que c'est hyper important, comme dans mon second album où c'est un voyage entre l'océan Indien et la France. J'ai commencé par enregistrer des sons à La Réunion et j'ai fini d'enregistrer des sons à Rouen. Ce qui fait qu'il y a eu vraiment ce voyage avec un début et une fin et un milieu qui est tout un déroulé sur toutes les chansons. Et j'ai envie à chaque fois de reproduire ce processus de création. toujours comme un écrivain, comme un photographe, comme un peintre, à amener.
Documentaire aussi, réalisation voilà, documentaire.
Exactement, c'est de la matière, comme on peut avoir plusieurs couleurs. Pour moi, le son naturel, c'est de la matière, comme un son digital, c'est de la matière. Et puis je mélange tout ça pour raconter une histoire.
C'est très dépaysant. Hein. Je veux dire que les premiers titres, je les ai reçus, j'étais en plein confinement. Ça m'a fait beaucoup de bien.
D'accord, tant mieux.
Donc non seulement tu es allé chercher ces sons et ces musiques sur des îles, donc des lieux éloignés, mais en plus sur ces îles, tu es allé chercher tes sons dans des villages eux-mêmes éloignés, si j'ai bien compris. Donc on a l'impression vraiment d'une véritable quête. Qu'est-ce que c'est cette quête en fait ?
Oh, ben, je pense que c'est ma curiosité d'enfant. Hein. Comme tous les gens, je suis curieux et j'ai envie d'affûter cette curiosité, enfin, ne pas la perdre, ne pas être blasé. J'ai pas envie de me réveiller en disant, oh, j'ai pas envie. Moi, je me lève le matin, j'ai envie de faire des choses. Ah oui, il faut que je fasse ça. Oui, ah oui, mais ça veut dire quoi? Et j'ai toujours mon magnétophone, il est toujours dans mon sac à dos. Et que je sois dans un aéroport, dans n'importe quoi, je suis toujours prêt à le dégainer pour enregistrer. Et ça, c'est hyper important pour moi parce que c'est comme un photographe. Je me compare vraiment à un photographe. J'ai pas envie de manquer le son, n'ai pas envie de manquer le moment. C'est hyper important parce que quand j'entends les sons, j'entends des textures tout de suite. Je dis ah non, ça c'est super bien ça. Hop, je dégaine, j'enregistre et avec le cadre, l'ambiance. Non, c'est chouette. Et c'est cette curiosité. Et puis j'ai envie de le faire découvrir aussi aux gens. Et puis d'aller dans des endroits inédits comme ça. C'est aussi là où on trouve des sons qui sont un peu vierges, entre parenthèses, loin de la société moderne. Et ça m'intéresse parce que avec les machines, ils ont tout ce qu'il y a de moderne. Donc, ce que je recherche, c'est plutôt le complémentaire. Je ne vais pas dire l'inverse, mais le complémentaire pour que tout ça forme quelque chose d'assez rempli, quoi.
Et les instruments de musique dans l'océan Indien, est-ce qu'on retrouve à peu près les mêmes sur toutes les îles ou est-ce que chaque île a ses instruments ?
Alors, ça dépend, mais chaque île a ses instruments. Après, il y a des familles d'instruments. Il y a les instruments à cordes, il y a les instruments à percussion, et puis il y a les instruments, les petites senza ou les choses comme ça. Et il y a d'autres instruments, comme le violon. Et ce que je commence à voir, parce que là, le projet commence tout juste, hein, je vois aussi que les instruments voyagent entre les îles aussi. Il y a des choses comme ça où Ménoir, il me sort un instrument comme ça, il me dit « Ça, je l'ai eu à Mayotte. » Ah ouais ? Il me dit « Mais tu joues d'instrument de Mayotte ?»« Bah oui, on me l'a donné, donc maintenant je joue. » Il y a comme ça, il y a un échange entre les îles. Mmh. Et je trouve ça très intéressant que les musiques s'enrichissent et que la tradition, de toute façon, c'est pas quelque chose de fixe. C'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement. La tradition d'aujourd'hui ne sera pas la tradition de demain. C'est comme ça que je vois les choses. C'est pour ça que ce travail de recherche, c'est que je me dis que forcément, ça va disparaître un jour. Ou disparaître, non, mais ça va évoluer, ça va changer. Et c'est bien de pouvoir le réécouter. Quoi.
Oui, avec là quand même une longue lignée qui est restée préservée sans trop bouger, qui permet de se reconnecter à...
Oui, tout à fait, mais...
quelque chose, on a l'impression d'originel, quoi.
Oui, c'est très originel. Après, je pense qu'on est au 21e siècle, mais on est un peu sur la fin, comme les langues disparaissent un peu dans tout le monde entier, où tout ça a tendance à s'uniformiser. Et niveau musical, j'ai bien peur que ça se passe un peu la même chose. Par exemple, à Madagascar, avant, il y avait des musiciens traditionnels qui jouaient pour les enterrements. Maintenant, c'est un DJ. Voilà, donc du coup, il y a ce côté où on ne peut pas leur en vouloir, c'est l'évolution, c'est comme ça. C'est normal que les choses évoluent, mais je pense que moi, mon travail en tant qu'artiste, c'est important de faire ces recherches pour pouvoir le garder et les enregistrer.
Et ce projet, c'est aussi un travail de mise en valeur de la diversité. Je crois qu'on l'a compris là maintenant depuis le début de l'interview. Et je crois que c'est un thème, la diversité, qui t'est très cher. Et ça m'intéresserait bien que tu nous en dises quelques mots de pourquoi tu trouves que c'est important, la diversité, aujourd'hui, en ce moment, parler, d'y travailler.
La diversité est importante parce que sur le thème de comprendre l'autre, ça c'est quelque chose qui nous permet de vivre en société. Si on ne connaît pas l'autre, Bon, en tout cas, on ne se connaît pas soi-même. Donc, c'est hyper important de comprendre qu'on est tous un peu pareil. Et ben, pour comprendre qu'on est tous un peu pareil, ben, il faut connaître l'autre. C'est pour ça qu'on a besoin de diversité. Et la diversité, c'est pas la peine d'aller aux États-Unis ou je sais pas quoi pour l'avoir. Elle est juste en bas de l'immeuble, hein, bien souvent. Et c'est ça, moi, après, je fais un travail en local par rapport à ça, où c'est assez important, où c'est très difficile de faire un travail sur la diversité en France, en local, parce que on a tendance, quand on recherche des choses, d'aller chercher des choses loin, alors qu'elles sont juste à côté. Et je trouve, dans le contexte politique actuel, la diversité, ça permet de resserrer les liens, de pas voir la personne étrangère comme quelqu'un de belliqueux qui va nous vouloir du mal, absolument. Si on comprend ses traditions, on comprend sa musique, on comprend sa cuisine, on comprend que, ben, que ce sont des gens gentils comme nous, quoi. Voilà, donc il n'y a pas de raison de se méfier de tout ça. Donc c'est plutôt en ce sens pour moi que la diversité est importante. Et dans mon travail, la diversité culturelle et surtout musicale.
Et en local, qu'est-ce que tu fais alors quand tu dis que tu essaies en local de travailler à ça? Est-ce que tu as des actions spécifiques, particulières?
Oui,
Tu as mis en place des choses?
je fais un travail dans les écoles. Par exemple, avec ce projet Black Ass, ben, je vais dans les écoles et puis je montre le travail que je fais aux élèves. Je leur explique tous les voyages. À chaque fois, je fais des petites vidéos. Je leur explique tout ça. Et souvent, les gamins, quand ils voient ça, ils rigolent. C'est la première chose
Oui.
qu'on a, la réaction qu'on a quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas comment réagir. On rigole. Et après, petit à petit, je casse un peu les choses, je leur explique. Là, mais vous voyez, vous avez rigolé, mais si je vous explique pourquoi ils chantent comme ça, c'est parce que là, cette façon de chanter, c'est pour rappeler les esprits, c'est pour soigner les gens, nanana, tout, tout. Et puis, à la fin, quand j'ai fait mon intervention, ils sont contents d'apprendre toutes ces informations. Parce que si vous voyez juste la vidéo comme ça n'a pas de sens. Mais j'aime bien expliquer les choses. Et quand je dis, je fais un travail de diversité en local, c'est ça, c'est pour moi l'avenir, c'est les jeunes, hein. Et les vieux, c'est trop tard. Voilà.
C'est irrécupérable.
Ils sont irrécupérables, voilà. Je devrais pas dire ça, mais je préfère aller vers les jeunes et puis et ouvrir leur esprit, leur donner cette curiosité comme moi je peux avoir, et qu'ils soient pas blasés, quoi, et qu'ils soient pas dans cette musique universelle qui inonde leurs oreilles et puis qui s'intéressent aussi à autre chose. Donc j'essaye de faire un travail comme
Universel,
ça.
mais qui vient toujours des mêmes lieux quand même. On nous la vend comme universelle, mais quand on va en Asie, justement, on se rend compte que c'est pas du tout universel, en fait, toute cette musique américaine ou d'influence américaine que nous, on a, et on a l'impression que c'est ça sur toute la planète. Mais il y a plein d'endroits où ils connaissent même pas les plus grands noms de la musique américaine, où ils sont maintenant, ça commence avec évidemment avec les smartphones et tout ça, tout commence un peu à se mélanger. Mais c'est quand même un peu une vision erronée qu'on a ici chez nous, là,
Oui,
de voir cette.
là c'est un autre sujet pour moi. Là,
Oui.
c'est on parle du travail des médias. Là, c'est un autre
Voilà.
travail qui cloisonne les choses, où on nous fait vivre dans un monde. Mais moi, je dis aux jeunes, attention, hein, surtout sur la partie écologique. J'interviens aussi pour leur dire, moi, j'ai vécu ma vie, c'est bon, mais réfléchissez à votre avenir, parce que c'est la planète sur laquelle vous allez vivre. Là, les chercheurs, il y en a plein, ils font des tribunes dans les médias pour vous expliquer que ça va être très difficile avec ce qui se passe, sans parler du réchauffement climatique, parce que ça, c'est aussi un fait qu'on le vit au quotidien. Mais il y a aussi toute la disparition du monde animal, qui est quelque chose d'incroyable, qu'on n'a jamais vécu.
Les oiseaux, les insectes, la
Et
biodiversité,
voilà, et comme tout
milieu
est
marin.
voilà, et comme tout est lié, forcément, ça aura des conséquences sur notre vie présente, dans un futur. Et on peut agir notamment de différentes façons, hein. Après, je suis pas là pour faire la leçon, mais
Mais non, mais ma dernière question, c'était sur ce sujet, donc tu peux y aller. C'était justement, je crois que tu es assez préoccupé par l'environnement, le recyclage, nos façons de consommer. Quelle place ça prend dans ta vie, cette préoccupation-là? Donc tu
Oui,
peux
ben,
y aller.
elle prend la place omniprésente, parce que je fais attention à ce que je consomme. Je fais un travail aussi de fabrication avec le recyclage. Malheureusement, je suis obligé encore de prendre l'avion, mais je suis en train de réfléchir là-dessus, parce que c'est difficile d'aller travailler dans l'océan Indien, de ne pas prendre l'avion. Mais je demande à chaque fois
Oui,
que...
surtout que c'est toi, tu y es né.
Bien sûr, bon, j'y vais pas pour aller à la plage. Hein. Moi, j'y vais, je
Voilà.
suis 24 heures dans un studio et puis je fais que travailler tout le temps. Et à Mayotte, quand j'étais à Mayotte, normalement, j'allais pour faire un one shot, un festival. Je leur ai dit, écoutez, c'est bien beau, mais moi, ça m'intéresse pas. J'ai envie de faire un travail sur place avec des enfants, sur l'écologie. Donc, on a monté un projet de 2 semaines où j'ai été dans un collège et on a fait un travail où j'ai travaillé avec une classe de cinquième et on a composé des chansons, on a fabriqué des instruments et on a fait une représentation après dans l'établissement. Et ça prend plus de sens pour moi d'aller là-bas et aussi de faire ça, de partager mon expérience sur place. Moi, ça m'apprend des choses et les enfants aussi, ça leur apprend des choses, ne serait-ce qu'ils peuvent fabriquer des choses avec leurs mains. Ils peuvent réaliser, composer une chanson du début jusqu'à la fin. Moi, je leur explique le processus. Ils peuvent se confronter à un public, ce qui n'est pas évident, pour tout le monde de faire un concert. Et pour moi, c'est important d'aller jusque-là. J'ai reproduit l'expérience aussi à l'île Maurice, pareil. On m'avait invité à jouer à un festival. J'ai dit, OK, je viens jouer, mais j'aimerais bien travailler avec les jeunes qui sont là-bas, pareil. Et à chaque fois, je reproduis, la même chose, c'est-à-dire, essayer d'aller sur place et puis de partager et pas juste je vais, je joue ou je vais bronzer sur la plage. Dans ma façon de penser, ça m'intéresse pas.
Je crois que tu as pas mal de projets en plus de ce projet-là. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu des mois qui viennent pour toi, de ce qui s'annonce, de ce qui se prépare, de ce qu'on peut espérer en croisant les doigts maintenant?
Oui, alors il y a un projet avec Loya où je m'interroge un peu sur le panafricanisme, ça va être un album pareil, où je vais rencontrer des artistes comme moi qui sont un peu exilés et puis qui vivent soit en Europe ou ailleurs. Et on va s'interroger sur est-ce que, par exemple, un griot qui vit à Caen, ça fait quelques années qu'il est là, comment peut être griot en Normandie? Voilà, c'est quoi le. Donc, c'est un peu mon interrogation là-dessus. Et puis, on discute, et puis, on finit par faire deux, trois chansons ensemble. Et je vais collaborer avec plusieurs collègues comme ça pour sortir un album qui s'appelle Panafrica, où voilà, ça va être comment se sent Africain en n'étant pas en Afrique, c'est un peu le questionnement.
Oui.
Voilà, pour moi, qui est intéressant parce que. Moi, à chaque fois, quand je discute avec les autres, on me dit mais, le Réunionnais, mais en fait, dans mon quotidien, je suis plus Réunionnais depuis longtemps. Enfin, je vis en Normandie, je me sens beaucoup plus normand que Réunionnais. Donc, sur ce raisonnement, je me suis dit, mais peut-être que mes collègues, c'est un peu pareil. Et puis, de discuter un peu avec eux aussi sur ce renvoi perpétuel vers le lointain, alors que nous, on est ici. Et aussi, admettre qu'on est du local, quoi, à un certain moment. Quand ça fait plus de 20 ans qu'on vit ici, on n'est plus réunionnais. Mais bon, je pense que c'est un peu la même chose. Et donc, je fais un travail là-dessus. Après, il y a un autre travail qui est un peu plus écologique, où je vais faire un travail sur le patrimoine, sur un patrimoine des arbres qui s'appelle les clos masures en Normandie. C'est des arbres qui sont plantés avec des haies autour des fermes. Et là, par le biais de collectifs, je vais collaborer avec conteuses, avec photographes, tout ça. Et puis, on a un projet pour monter une création avec des personnes âgées, des enfants autour de ce patrimoine pour aussi, parce que ce patrimoine est en train de disparaître aussi, parce que tout le monde construit des maisons, mais on abat les arbres, et aussi d'apprendre que les arbres, ça a un intérêt. Et il
Les
faut.
haies aussi.
Les haies aussi, ça a un intérêt, il faut pas les couper. Donc, c'est un travail aussi sur ce patrimoine par le biais des arbres. Donc, je vais faire ça. Il y a ce travail pour l'année prochaine. Il y a un autre travail de création avec le CDN de Rouen où je fais la création musicale d'une pièce de théâtre. Je devais aller à Avignon, là, pendant tout le mois de juillet, normalement, cette année, pour jouer une pièce de théâtre, mais ça s'est pas fait. Mais donc, ce sera normalement l'année prochaine. Donc, on va
Pour
travailler aussi.
jouer en tant que comédien?
Non, en tant que musicien sur
Ah
scène. Oui, non,
oui.
je suis pas comédien, moi.
Parce que pour jouer une pièce de théâtre, je me suis dit, j'ai encore loupé une
Non,
des nombreuses parties de ces activités artistiques.
je suis compositeur et puis musicien sur scène dans des pièces de théâtre, ce qui me permet aussi d'avoir des cachets pour pouvoir faire des musiques qui sont pas très vendable, on va dire. Et donc, il y a cette création pour l'année prochaine. Voilà. Voilà, ça fait déjà pas mal de choses.
Oui, ça fait déjà pas mal de choses. Bah, écoute, je te souhaite que l'on puisse être un petit peu tranquille tous pour travailler et créer dans les mois et disons même les années qui viennent, puisqu'on ne sait pas trop ce qui nous attend avec tout ça et puis ce petit coronavirus là qui continue de circuler. On croise les doigts.
Bien sûr, après il y a lui, mais il va y avoir ses copains aussi. Hein. Je pense qu'on est parti dans un moment où on va être confronté à la nature. On a tellement...
Malmenée,
à un certain moment, elle se rebelle un peu. Ben, je parlais tout à l'heure des arbres, tout ça, mais voilà, les forêts, enfin, on a tellement coupé à certains moments, comme tout est relié, et ben, ça finit par atteindre notre santé, quoi. Donc,
Disais que tu avais aussi, je reviens un petit peu en arrière, mais ça me repasse par la tête, que tu avais observé qu'il y avait beaucoup moins d'oiseaux là où tes parents vivent.
Oui. Oui, oui, énormément.
Ça, c'est à La Réunion ?
Ça, c'est à La Réunion, oui, oui, bien sûr. Non, avant, il y avait beaucoup d'oiseaux. Maintenant, il y en a beaucoup moins parce que...
Bah, c'est dû à quoi, La Réunion ?
Le déboisement, l'utilisation des pesticides. Il y a un certain moment, il y a le chikungunya. Et pour enlever les chikungunya, ils ont déversé une tonne de pesticides, pas possible. Pour tuer les moustiques. Mais ça a détruit toute la faune aussi, en même temps. Donc, il y a ça. Mais je pense que ce n'est pas qu'à La Réunion. Hein. Ici, en métropole, il y a plein d'oiseaux qui sont en disparition. Hein. Je pense que la crise sanitaire, c'est une chose, mais ça ne va pas... Il va y avoir des choses qui peut-être sont plus importantes que ça dans les années à venir avec le changement climatique, quoi.
Ah oui, là, c'est sûr qu'on n'est pas très, très bien parti.
C'est trop tard parce que c'est comme un bateau pour le ralentir. Quand on appuie sur le frein, il met quelques kilomètres pour s'arrêter. Même si on arrête maintenant, il y aura quand même des conséquences. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'arrêter. Hein, mais...
Non, mais... Ce qui est terrible, c'est qu'on ne s'arrête pas maintenant non plus.
Oui,
donc, on continue à créer les mêmes causes qui vont produire les mêmes effets en pire, puisque ça se démultiplie maintenant, les effets. Donc.
Oui. Non, c'est assez intéressant de psychologiquement, de ce travail d'autodestruction qu'on a. Donc, c'est une sorte d'autodestruction qui fait que... moi qui m'interroge des fois, je ne comprends pas pourquoi... Il y a un suicide collectif comme ça,
Oui, tu as raison, je pense qu'il faut s'interroger sur le pourquoi. Pourquoi tant de haine ?
Non, c'est très intéressant notre discussion parce que de plus en plus avec les personnes qui m'entourent, on parle tous de ça. Enfin, depuis quelques années, là, avec les bouquins qui sont sortis sur l'effondrement, au début, c'était un petit peu anxiogène, mais finalement, on finit par l'accepter, mais on en discute. Ça fait partie de notre quotidien de savoir que ça va changer. Et puis, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand. Mais c'est sûr que ça ne peut pas continuer comme ça. Quoi.
Voilà, après, que l'on y croit ou pas, l'effondrement, il faut envisager que les choses vont changer. Et visiblement, pas vers le meilleur dans un futur proche, en tout cas.
Je n'ai pas l'impression non plus. C'est pour ça que le travail musical en tant qu'artiste, pour moi, c'est essentiel. Parce que ça me permet l'évasion, de quitter le côté terrestre et puis partir dans des rêves tous les jours. Et moi, j'adore faire ça. Et c'est pour ça aussi que je suis artiste et puis que je suis plus informaticien parce qu'à un certain moment, j'étais trop dans cette réalité où je me reconnaissais plus. Enfin, ça avait pas de sens pour moi de travailler dans l'informatique alors que moi, j'avais envie de faire rêver les gens, quoi, de faire autre chose, de faire voyager. Voilà, c'était beaucoup plus parlant pour moi. Et voilà, et c'est ce que je fais maintenant. Je suis bien content de faire ça.
Merci beaucoup parce que finalement, nous aussi, on est bien contents que tu fasses ça.
Oui, avec plaisir.
Ça nous fait du bien aussi. Et donc, je vais inviter tous les auditeurs de So Sweet Planet. Je vais mettre des liens, que ce soit sur le site So Sweet Planet, puisqu'en fait, le podcast est intégré sur le site de So Sweet Planet, où il va y avoir des visuels, des liens, quelques mots sur le sujet du podcast et tout ça. Et ensuite, ça part sur toutes les applis de podcast et les plateformes de streaming, donc Apple Podcast, Deezer, Spotify et toutes les applis de podcast. Et là, Ça intègre le texte, donc là je parle en même temps à ceux qui vont nous écouter. Donc en cliquant sur le titre du podcast, vous avez un petit texte ensuite de présentation qui va vous donner les informations essentielles sur le projet de Loya Blackaz, et avec des liens donc pour aller voir son site, des vidéos et continuer à suivre son histoire. Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous, c'était vraiment chouette cette interview.
Oui, pour moi aussi, vraiment. Bonne continuation.
Merci, bonne continuation. À vous aussi, au revoir.
Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, n'oubliez pas de vous abonner soit à la newsletter sur sosuiteplanète.com ou au podcast, ou les deux, pour être informé des prochains podcasts mis en ligne.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.